Germinal. Émile Zola. Partie 3, chapitre 5. Un jour, une lecture. Maheu, sans regarder à sa montre laissée dans sa veste, s'arrêta et dit :
Bientôt une heure. Zacharie, est-ce fait ?
Le jeune homme boisait depuis un instant. Au milieu de sa besogne, il était resté sur le dos, les yeux vagues, rêvassant aux parties de crosse qu'il avait faites la veille. Il s'éveilla, il répondit.
« Oui, ça suffira, on verra demain. »
Et il retourna prendre sa place à la taille. Levaque et Chaval, eux aussi, lâchaient la rivelaine. Il y eut un repos. Tous s'essuyaient le visage sur leurs bras nus, en regardant la roche du toit dont les masses schisteuses se fendillaient. Ils ne causaient guère que de leur travail.
« Encore une chance, murmura Chaval, d'être tombé sur des terres qui déboulent. Hein, ils n'ont pas tenu compte de ça dans le marchandage. »«
Des filous !» grogna Levaque. « Ils ne cherchent qu'à nous foutre dedans !»
Zacharie se mit à rire. Il se fichait du travail et du reste, mais ça l'amusait d'entendre empoigner la compagnie. De son air placide, Maheu expliqua que la nature des terrains changeait tous les 20 mètres. Il fallait être juste, on ne pouvait rien prévoir. Puis, les deux autres continuant à déblatérer contre les chefs, il devint inquiet. Il regarda autour de lui.
« Chut ! En voilà assez !»«
Tu as raison !» dit Levaque, qui baissa également la voix. « C'est malsain !»
Une obsession des mouchards les hantait, même à cette profondeur, comme si la houille des actionnaires encore dans la veine avait eu des oreilles.
« N'empêche, ajouta très haut Chaval d'un air de défi, que si le cochon de Dansaert me parle sur le ton de l'autre jour, je lui colle une brique dans le ventre. Je ne l'empêche pas, moi, de se payer les blondes qui ont la peau fine. »
Cette fois, Zacharie éclata. Les amours du maître Porion et de la Pierronne étaient la continuelle plaisanterie de la fosse. Catherine elle-même, appuyée sur sa pelle, en bas de la taille, se tint les côtes et mit d'une phrase Étienne au courant. Tandis que Maheu se fâchait, pris d'une peur qu'il ne cachait plus.
« Hein, tu vas te taire. Attends d'être tout seul si tu veux qu'il t'arrive du mal. »
Il parlait encore lorsqu'un bruit de pas vint dans la galerie supérieure. Presque aussitôt, l'ingénieur de la fosse, le petit Négrel, comme les ouvriers le nommaient entre eux, parut en haut de la taille, accompagné de Dansaert, le maître Porion.
« Quand je le disais, murmura Maheu, il y en a toujours là, qui sortent de la terre. »
Paul Négrel, neveu de Monsieur Hennebeau, était un garçon de 26 ans, mince et joli, avec des cheveux frisés et des moustaches brunes. Son nez pointu, ses yeux vifs, lui donnaient un air de furet aimable, d'une intelligence sceptique qui se changeait en une autorité cassante dans ses rapports avec les ouvriers. Il était vêtu comme eux, barbouillé comme eux de charbon. Et pour les réduire au respect, il montrait un courage à se casser les os, passant par les endroits les plus difficiles, toujours le premier sous les éboulements et dans les coups de grisou.
« Nous y sommes, n'est-ce pas, Dansaert ? » demanda-t-il.
Le maître Porion, un Belge à face épaisse, au gros nez sensuel, répondit avec une politesse exagérée.
« Oui, monsieur Négrel, voici l'homme qu'on a embauché ce matin. »
Tous deux s'étaient laissés glisser au milieu de la taille. On fit monter Étienne. L'ingénieur leva sa lampe, le regarda sans le questionner.
« C'est bon, dit-il enfin. Je n'aime guère qu'on ramasse des inconnus sur les routes. Surtout, ne recommencez pas. »
Et il n'écouta point les explications qu'on lui donnait. Les nécessités du travail, le désir de remplacer les femmes par des garçons pour le roulage. Il s'était mis à étudier le toit, pendant que les haveurs reprenaient leur rivelaine. Tout d'un coup, il s'écria.
« Dites donc, Maheu, est-ce que vous vous fichez du monde ? Vous allez tous y rester, nom d'un chien ! »
« Oh, c'est solide !» répondit tranquillement l'ouvrier.
« Comment solide ? Mais la roche tasse déjà ! Et vous plantez des bois à plus de 2 mètres d'un air de regret ! Ah ! Vous êtes bien tous les mêmes ! Vous vous laisseriez aplatir le crâne plutôt que de lâcher la veine pour mettre au boisage le temps voulu ! Je vous prie de m'étayer ça sur le champ ! Doublez les bois, entendez-vous ?»
Et devant le mauvais vouloir des mineurs qui discutaient, en disant qu'ils étaient bons juges de leur sécurité, il s'emporta.
« Allons donc ! Quand vous aurez la tête broyée, Est-ce que c'est vous qui en supporterez les conséquences? Pas du tout! Ce sera la compagnie qui devra vous faire des pensions à vous ou à vos femmes! Je vous répète qu'on vous connaît. Pour avoir 2 berlines de plus le soir, vous donneriez vos peaux!
Maheu, malgré la colère dont il était peu à peu gagné, dit encore posément.
Si l'on nous payait assez, nous boiserions mieux.
L'ingénieur haussa les épaules sans répondre. Il avait achevé de descendre le long de la taille. Il conclut seulement d'en bas.
Il vous reste 1 heure. Mettez-vous tous à la besogne et je vous avertis que le chantier a 3 francs d'amende.
Un sourd grognement des haveurs accueillit ces paroles. La force de la hiérarchie les retenait seule. Cette hiérarchie militaire qui, du galibot au maître Porion, les courbait les uns sous les autres. Chaval et Levaque, pourtant, eurent un geste furieux, tandis que Maheu les modérait du regard et que Zacharie haussait gouailleusement les épaules. Mais Étienne était peut-être le plus frémissant. Depuis qu'il se trouvait au fond de cet enfer, une révolte lente le soulevait. Il regarda Catherine, résignée, l'échine basse. Était-ce possible qu'on se tuât à une si dure besogne dans ces ténèbres mortelles et qu'on n'y gagnât même pas les quelques sous du pain quotidien ?